du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pidis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, avant que de commencer ce cours d'exégèse sur le chapitre 2 de Saint Jean, je voudrais vous présenter mes excuses si je n'ai pas pu assurer la Sainte Messe en vidéo dimanche dernier. J'ai malheureusement fait une chute dans un escalier chez moi, dans ma nouvelle maison. En fait, j'ai le tendon qui unit le quadriceps de la cuisse à la rotule qui s'est cassée net, ce qui fait que j'ai dû être transporté d'urgence à l'hôpital. J'ai été opéré dimanche matin, le 12 décembre, et je suis un peu éclampé. Je suis obligé de garder ma jambe droite. Je ne peux pas plier le genou pendant 6 semaines, ce qui désorganise toute la maison. En plus, j'ai avec moi ma vieille maman, qui est maintenant avec moi, mais qui, elle aussi, est très handicapée. Donc, il y a 2 handicapés dans la maison. Heureusement, mon Dieu a permis que j'ai des bons amis ici qui nous aident. Mais ce qui fait que ça a tout désorganisé. Donc, je suis en retard pour les cours, je suis en retard dans la préparation de mes sermons et je n'ai pas pu assurer le sermon et la messe de dimanche dernier. Je vous prie de m'en excuser. Je vais essayer de reprendre ça dès dimanche prochain, le 19. Ce sera le 4e dimanche de l'Avent. Et même si je ne pourrai plus faire de génuflexion pendant 6 semaines, je n'ai absolument pas le droit de plier le genou. Donc, ne soyez pas choqués sur les vidéos, il n'y aura pas de génuflexion pendant la messe. Alors, nous en sommes à la page 26 du polycopier qui couvre les chapitres 1 à 5 de Saint Jean. Donc, je l'ai polycopié à la page 26. Donc, nous en sommes dans les explications que donnent les pères de l'Église sur le miracle de Cana, qui a une importance fondamentale, d'abord parce que c'est le premier des miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, donc il n'y a pas eu de miracle fait par lui avant, soit en privé, soit en public. En plus de ça, ce mariage a une importance toute particulière, parce qu'il représente quelque chose d'autre. Alors, voyons un petit peu ce que les pères révèlent de cette représentation du mariage de Cana. Le mariage de Cana, comme dans pratiquement tous les mariages dont il est parlé dans l'Évangile, il y en a beaucoup. Notre Seigneur Jésus-Christ prend souvent l'exemple du mariage pour expliquer l'union qui existe entre la nature humaine et la nature divine. Donc ce mariage, en haut de la page 26 sur le polycopier, ce mariage représente donc l'union maritale du Christ avec la nature humaine qui prit place dans son incarnation. Donc le mariage, c'est quoi? C'est l'union de deux personnes. Deux personnes qui vont former un seul corps. Donc ça représente l'union des deux natures, nature humaine, nature divine, qui vont être unies dans une même personne, à savoir la personne de la deuxième personne de la Sainte Trinité, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez l'importance de ce symbole qui est absolument fondamental. Pourquoi? Parce que le sacrement de mariage donc, a en quelque sorte son fondement dans le mystère de l'incarnation. De même que le mystère de l'incarnation ne peut pas être détruit en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, il est vraiment Dieu et vraiment homme. Parce qu'il est vraiment Dieu, il peut mourir pour nous, il peut me sauver par la mort sur la croix, et parce qu'il est vraiment homme, Il peut mourir sur la croix et parce qu'il est vraiment Dieu, il peut nous sauver par sa mort. Donc ces deux choses restent unies dans la même nature, dans la dualité de nature plus exactement, qui existe dans la deuxième personne de la Sainte Trinité. Donc je reprends la phrase donc, des Pères, page 26. Ce mariage représente l'union maritale du Christ avec la nature humaine qui prit place dans son incarnation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de même que notre Seigneur Jésus-Christ a uni dans sa même personne la nature humaine et la nature divine, de la même façon, les époux doivent être, dans le cadre du mariage, unis de façon maritale, avec le même degré de fidélité que notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté par son incarnation. Donc fidélité de l'humanité par rapport à la divinité, fidélité de la divinité par rapport à l'humanité. Donc ce mariage est célébré le troisième jour, qui est le troisième âge du monde. Le premier, la loi de la nature, le deuxième, la loi de Moïse. Le troisième, la loi du Christ. Il faut noter une chose importante, c'est qu'il y a parfois des contradictions relatives entre ce que disent certains pères entre eux. Ils ne sont pas toujours d'accord. Vous savez, je vous l'ai déjà expliqué très souvent, lorsque tous les pères de l'Église enseignent la même chose sur un point, cela devient infaillible. Là, on voit, c'est un exemple typique des points qui ne sont pas, où il n'y a pas d'union entre les pères. Par exemple, en bas de la page 24, sur le polycopié, on avait vu que les pères divisaient l'époque qui s'était écoulée depuis le commencement du monde en six époques. Et que nous sommes dans la sixième de ces époques. La première se comptait d'Adam jusqu'à Noé, la seconde de Noé à Abraham, la troisième d'Abraham à David, puis la quatrième de David jusqu'à la captivité de Babylone, cinquième de la captivité de Babylone jusqu'à Jean-Baptiste, et la sixième de Saint-Jean-Baptiste à la fin du monde. Donc ici, à la page 26, on voit une autre distinction complètement différente. Donc troisième âge du monde, le premier âge étant la loi de la nature, deuxième âge la loi de Moïse, troisième la loi du Christ. En fait, c'est quand même une contradiction qui est apparente seulement, parce que la deuxième distinction recouvre la première distinction. Alors, ce mariage, donc, qui représente le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire le mariage de l'humanité et de la divinité, parce que c'est ça l'incarnation. L'incarnation, c'est quoi? C'est in carnis, prendre chair. Dieu qui prend chair, donc Dieu qui devint homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Dieu qui devint homme pour rattraper le péché des hommes. Dieu ayant voulu que son fils soit choisi pour rattraper le péché des hommes par la mort sur la croix, il a fallu donc que Dieu unisse sa divinité à une nature qui soit une nature mortelle pour qu'il puisse mourir sur la croix. Un Dieu ne peut pas mourir. Donc Dieu a uni dans la personne de son fils l'humanité et la divinité. Donc, autre phrase des pères qui réexplique la même chose sous une autre forme. Ce mariage, le mariage de Cana, fut célébré en Galilée des gentils, car le Christ appelle les gentils à son mariage avec notre humanité. On retrouve exactement la même idée. Ce mariage représente aussi, si vous voulez, c'est une autre façon d'expliquer, l'union qui existe entre les différents peuples qui ont été créés par Dieu. Donc c'est l'union des gentils, c'est-à-dire des non-juifs, avec la religion juive d'origine, par le mariage de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que les pères disent que le Christ appelle les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, à son mariage avec notre humanité. Donc le mystère de l'incarnation, c'est ce que cela veut dire, n'est pas simplement un mystère pour les juifs ou pour les catholiques, c'est un mystère nécessaire pour tous les hommes. Personne ne peut être sauvé sans utiliser d'une façon ou d'une autre le mystère de l'union de l'humanité, de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce miracle fut fait à Cana, parce que le mot Cana représente la transmigration de la possession. Donc possession par le Christ du peuple chrétien acheté par son propre sang, qui va passer de la terre au ciel. Donc notre Seigneur va réunir dans un seul troupeau tous les peuples de la terre. Il va vouloir réunir dans un seul bercail toutes les brebis de ses pâturages, y compris les brebis qui sont en dehors de ses pâturages. Il veut un seul troupeau, un seul pasteur, que tout le monde se sauve. C'est le désir de notre Seigneur Jésus-Christ, de volonté antécédente. Dieu veut le salut de tous les hommes, même si de volonté conséquente, c'est l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, si de volonté conséquente, Dieu va sauver, ne va sauver que les gens qui acceptent de s'unir aux conséquences de la passion. Il ne s'agit pas simplement d'assister à la passion avec des yeux douloureux, ça ne suffit pas. Il faut encore utiliser les fruits de la passion. C'est pour ça que Dieu se fait homme pour tous les hommes, mais en fait, seuls les hommes de bonne volonté, c'est-à-dire les hommes qui cherchent Dieu, les âmes qui cherchent Dieu, vont pouvoir utiliser ce mystère de l'incarnation pour arriver à la rédemption. Donc Dieu a racheté par son propre sang, pas simplement le peuple des Juifs de l'Ancien Testament, mais également le peuple des catholiques du Nouveau Testament. Tous les hommes ne peuvent aller au ciel que par le sang rédempteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le vin, le miracle de Cana, c'est le changement du vin, de l'eau en vin. Donc le Christ donne du vin qui est la doctrine et la grâce de l'Évangile, qui rend donc l'âme heureuse et l'enivre. Il va aussi changer le vin en son sang dans la Sainte Eucharistie. Donc il y a une première étape, le vin, et une deuxième étape dans cette transsubstantiation qui va être le changement de la substance du vin en la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ça, où est-ce que ça va se passer? Ce changement qui est ici annoncé, c'est un témoignage des pères très important, le miracle de Cana annonce non seulement le mystère de l'incarnation, mais annonce, je vous l'ai dit, le mystère de la rédemption, puisque l'incarnation et la rédemption sont réunies, sont unies. Annonçant le mystère de la rédemption, le miracle de Cana va donc annoncer le Saint-Sacrifice de la messe. Pourquoi? Parce que le Saint-Sacrifice de la messe n'est que le renouvellement non sanglant de ce mystère de la rédemption. Donc l'eau qui se change en vin à Cana de Galilée rappelle d'abord l'union de l'humanité et de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'incarnation qui mène à la rédemption, et rappelle également que la rédemption se fait par l'effusion de sang divin. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, de même qu'il va changer l'eau en vin, ce changement va représenter un autre changement qu'on appelle vraiment la transsubstantiation, le changement de la substance du vin en la substance du corps, du sang, de l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc derrière ce miracle de Cana, il n'y a pas simplement l'incarnation et la rédemption qui sont représentées, mais également le mystère de la Sainte Messe, renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Donc ce vin représente la doctrine et la grâce de l'Évangile, et ce changement du vin en son sang, c'est la Sainte Messe. Donc encore une fois, il faut bien comprendre ça. Cana à Galilée représente l'incarnation, la rédemption, et donc la conséquence de la rédemption, la conséquence de la rédemption n'étant rien d'autre que l'institution du Saint-Sacrifice de la messe. Autre symbole, cette fois-ci tropologique, tropologiquement, je rappelle que le sens tropologique, c'est le sens moral d'une action de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Donc, tropologiquement, par ces noces et ce vin, le Christ signifie l'union, le mariage de notre âme avec Dieu par la grâce et la charité. C'est ce qu'on appelle l'union de la vie mystique. Pour pouvoir s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ de façon totale, par ce qu'on appelle la vie unitive ou la vie mystique, il faut d'abord passer par la purification, la voie purgative, ensuite, deuxième étape, la vie illuminative, pour recevoir les lumières du Saint-Esprit, avant d'atteindre le mariage spirituel. Le mariage spirituel, c'est la vie mystique, c'est la vie unitive. Donc, le noce de Cana représente aussi ce mariage spirituel, ce mariage spirituel qui va avoir lieu dans la vie unitive, dans la vie mystique. C'est si vous voulez, le sommet de l'union de la charité avec une âme. Donc, on commence par se purifier, voie purgative, pour recevoir les lumières du Saint-Esprit, voie illuminative, afin de s'unir complètement à notre Seigneur Jésus-Christ par la voie mystique ou la voie unitive. Et la voie mystique ou la voie unitive, c'est ce qu'on appelle le mariage spirituel. Donc, une union avec notre Seigneur Jésus-Christ qui n'est plus brisée. N'oubliez pas que quelqu'un qui est en voie unitive, en voie mystique, est quelqu'un qui ne peut plus commettre de péché mortel. S'il peut encore commettre des péchés mortels, il n'est pas en voie mystique, il est encore en voie purgative. N'oubliez pas que le premier signe par lequel on voit que quelqu'un est encore en voie purgative, c'est qu'il commet encore des péchés graves, même si c'est de façon relativement rare. Même s'il va se confesser immédiatement après sa confession, à partir du moment où il est en voie... il commet des péchés mortels, même de façon peu fréquente, il est encore en voie purgative. Lorsqu'il est passé en voie illuminative, cette âme, est-ce qu'elle est passée en voie illuminative, cette âme peut se reconnaître en voie illuminative parce qu'il n'y a plus de péché mortel. Plus du tout. Ils ont complètement disparu d'une âme. Et à ce moment-là, on voit que des péchés véniels ou des péchés de fragilité. Mais Dieu veut une purification encore plus grande. Donc après le passage de la vie purgative à la vie illuminative, Dieu va demander le passage de la vie illuminative à la vie intime avec notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'on appelle la vie mystique, la vie unitive ou le mariage spirituel. Voilà pourquoi également il y avait présente à ce mariage de Cana la mère de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle est l'Immaculée Conception. Immaculée Conception, c'est pas simplement le fait qu'elle soit été conçue sans la tache du péché originel, elle est conçue donc de façon extrêmement pur comme notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les hommes sont conçus avec le péché originel, sauf la très sainte Vierge Marie, notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc il y a cette immaculée conception de notre sainte Vierge Marie, mais conception immaculée, le mot immaculé, l'étymologie, si vous voulez, c'est sans tache. In macula, macula, c'est la tache en latin. Donc une Vierge immaculée, c'est-à-dire une Vierge sans tache. Donc non seulement elle n'a pas le péché originel, mais elle a une chasteté virginale qui va lui permettre de devenir en quelque sorte le tabernacle vivant que notre Sainte Vierge Marie va devenir par l'incarnation. Donc la mère de Jésus était donc là, à Cana de Galilée, dans sa chasteté virginale, ainsi que les disciples dans la simplicité de leur foi. Reconnaissant humblement le vin de notre dévotion, la ferveur que le Christ va répandre en nous, en changeant notre âme insipide en vin de sa grâce divine, par lequel nous nous rafraîchissons, nous nous enivrons, nous et les autres, pour la permettre de briller dans cet amour de Dieu. Donc on voit cette extraordinaire pureté de notre Sainte Vierge Marie. Voilà pourquoi notre Seigneur a voulu qu'au mariage, au premier miracle de Cana en Galilée, il y ait effectivement cette union entre l'humanité et la divinité qui est représentée par ce mariage, je vous l'ai déjà dit, mais en la présence de notre Sainte Vierge Marie, parce que justement c'est une union parfaitement chaste, une union parfaitement vierge. La Sainte Vierge Marie qui va être médiatrice de toutes les grâces, qui va devenir co-rédemptrice du genre humain, va sauver les hommes indirectement en acceptant justement de souffrir, puisqu'elle devient co-rédemptrice avec son divin fils qui lui est rédempteur. Donc il faut bien méditer sur tous ces passages. Donc la présence de la Sainte Vierge Marie marque l'importance de la vertu de pureté pour ne pas souiller le lit nuptial. On voit très bien cette importance de la vertu de chasteté ici. Et n'oublions pas que le miracle de Cana représente le mystère de la Sainte Eucharistie. Et donc... La pureté extraordinaire de la Sainte Eucharistie. Analogiquement, le mariage de l'agneau sera parfait au ciel. Là, le Christ nous donnera un vin nouveau et un nectar du vin. Il nous enivrera de la graisse de la maison de Dieu et donnera à boire le torrent de ses plaisirs. Donc, on voit encore une fois ici, chez les pères de l'Église, cette insistance sur le fait que le miracle de Cana en Galilée représente le sacrifice de l'agneau. Le sacrifice de l'agneau, c'est quoi? C'est le sacrifice de la fête de Pâques. C'est le sacrifice qui va être représenté par, mis en action par le Saint-Sacrifice de la Messe. Oui. Donc, que ça soit anthropologiquement, que ça soit analogiquement, tout est centré sur la Sainte Messe. Alors, ici, une note intéressante en haut de la page 26. Dans les mariages où le Christ ne préside pas, comme dans la première partie des noces de Cana, on boit son meilleur vin le premier, puis on s'abandonne à l'ivresse, et ensuite arrive le désenchantement. On boit le vin moins bon, il arrive même que le vin manque totalement. Mais dans les mariages, au contraire, où Jésus préside, les joies que l'on goûte deviennent toujours meilleures, les choses les plus communes se transforment et deviennent source de joie. Donc, mais avec notre Seigneur Jésus-Christ, plus on fait rentrer notre Seigneur Jésus-Christ dans notre âme, plus on l'aime, on n'est jamais dégoûté. Alors qu'au contraire, avec les choses matérielles, plus on les fait rentrer dans notre âme, plus elles nous dégoûtent. Imaginez quelqu'un qui commence à trop boire, il se rend bien compte qu'il est en train de se ridiculiser devant toute l'assistance, et il continue de boire, le malheureux, même s'il connaît les conséquences. Au contraire, dans les mariages que Dieu préside, on trouve cette joie, cette paix, cette lumière, cette attraction vers les choses belles. Au contraire, dans les mariages où le Christ ne préside pas, on boit son meilleur vin le premier, on s'abandonne immédiatement à l'ivresse, puis au désenchantement qui va suivre. Nous avançons dans ce chapitre 2, versets 12 et 13, page 26. Après cela, Jésus descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Alors, voyons un petit peu ce que disent les pères de l'Église sur ces deux versets. Il paraît certain en effet que les trois premiers évangiles, page 26 au milieu de la page, les trois premiers évangiles ne contiennent que les faits qui sont passés l'année où Jean-Baptiste a été jeté dans les fers et mis à mort. C'est pour cela que saint Jean fut prié de transmettre par écrit les événements de la vie du Sauveur qui avaient précédé l'emprisonnement de saint Jean-Baptiste. Et un examen attentif découvrira que les évangiles ne se contredisent pas et que saint Jean et les trois premiers évangélistes racontent des faits qui sont passés dans les temps différents. Donc on voit très bien dans les quatre évangiles, il y a trois évangiles qui se regroupent, ce qu'on appelle les synoptiques. Saint Matthieu, saint Marc et saint Luc. Bon. Saint Jean est complètement différent dans sa structure des autres évangélistes. C'est bien sûr la même doctrine, tout est fondé sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il y a en même temps beaucoup de changements. Alors, voyons donc ces deux versets, versets 12 et 13, un petit peu ce que disent les pères de l'Église. Donc, encore une fois, l'évangile selon saint Jean ne va pas revenir sur des choses qui ont déjà été explicitées par les trois premiers évangélistes. C'est pour ça qu'on fait une distinction toujours entre les synoptiques, c'est-à-dire les trois premiers évangélistes de saint Matthieu, saint Marc et saint Luc d'un côté, et l'évangile de saint Jean d'autre côté. Alors les modernes vont dire que cette distinction vient du fait que saint Jean a été écrit beaucoup plus tardivement, et vraisemblablement pas avant la fin du deuxième, au milieu ou la fin du deuxième siècle. C'est complètement faux. Le Saint-Évangile selon saint Jean a été écrit très tôt. Moins tôt, c'est vrai, que les synoptiques, mais quand même très tôt par rapport à l'histoire de l'Église. Avant la fin du premier siècle, saint Jean avait déjà écrit son évangile. Selon Baronius, je vous l'ai déjà dit, saint Jean a écrit son évangile en l'an 99, soit 63 ans après l'ascension. Bon, certes, c'est beaucoup plus tardif que les autres synoptiques. Les autres synoptiques pour saint Matthieu ont été écrits beaucoup plus tôt, vraisemblablement autour de l'année 40. Ou même si ce n'est pas certain exactement, ce n'est pas exactement la date d'écriture de l'évangile selon saint Matthieu, mais saint Jean n'a jamais été écrit au deuxième siècle, c'est totalement faux. Il était écrit à la fin du premier siècle. Pourquoi? Parce que le dépôt de la foi va s'arrêter avec la mort de saint Jean. Donc, s'il y a parfois des distinctions à faire entre l'évangile selon saint Jean d'un côté et les trois synoptiques de l'autre, c'est tout simplement parce que les évangélistes racontent des faits qui sont passés dans des temps différents. On a trois circonstances différentes. Donc, on est au sens allégorique maintenant. C'est après la séparation des noces à Cana en Galilée que Jésus, avec sa mère, Ses frères et ses disciples descendent à Capharnaüm, dont le nom signifie le champ de la consolation. Après avoir donné le vin généreux qui augmente la force et l'ardeur, il était convenable que le Christ vint avec sa mère et ses disciples dans le champ de la consolation pour consoler et fortifier par l'espérance des fruits à venir et par la perspective des champs nombreux et fertiles ceux qui embrassaient sa doctrine, mais aussi l'âme de ceux qu'il avait conçus dans le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est après la préparation donc, des noces à Cana que va intervenir sa très sainte mère. N'oubliez pas que la très sainte mère, la très sainte Vierge Marie, la mère de Dieu, a voulu être là pour les noces de Cana en Galilée, alors que par exemple elle ne sera pas là au jeudi saint au soir. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas supposée être prêtre. Bon. Par contre, elle est médiatrice de toutes les grâces et donc elle va obtenir cette grâce pour les gens qui avaient organisé ce mariage auquel avait été invité notre Seigneur Jésus-Christ et ses disciples et sa mère. Alors qu'au contraire, pour le jeudi saint, notre Sainte Vierge Marie n'est pas là pour bien montrer que Jésus n'a pas voulu que sa mère devienne prêtre. Donc ceux qui portent des fruits de salut voient descendre vers eux notre Seigneur qui ministre la parole sainte et ses disciples. Et le Seigneur vient les fortifier en présence de sa Sainte Mère, et souvent même par son intercession. Ceux qui ont été conduits à Capharnaüm ne supportent pas longtemps la présence de Jésus, parce que le champ de consolation terrestre ne peut supporter l'éclat d'un grand nombre de vérités, et peut à peine en recevoir quelques-uns. Donc on voit très bien que l'homme, à cause de la petitesse de son cerveau, ne peut pas tout comprendre concernant la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un peu absolument impossible. C'est pour ça que les anciens disaient que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Donc, on peut comprendre en partie notre Seigneur Jésus-Christ, l'aimer en partie, mais cette connaissance de Dieu, cet amour de Dieu que nous allons recevoir, est tout à fait inférieur au degré d'amour que nous devrions avoir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ceux qui portent des fruits de salut voient descendre vers eux notre Seigneur, qui est le ministre de la parole sainte et ses disciples. Et le Seigneur vient les fortifier en présence de sa Sainte Mère. Pourquoi? Encore une fois, parce que sa Sainte Mère est médiatrice de toutes les grâces. On avance. En bas de la page 26, il trouva dans le temple des marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et des changeurs assis. Et ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Et il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leur table. Et il dit à ceux qui vendaient des colombes, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Or, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de votre maison me dévore. » On voit un passage très fort dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, un passage qu'il faut souvent méditer. Donc, il y a notre Seigneur qui fait un fouet avec des cordes et qui chasse tout le monde du temple. Il chasse les prêtres qui s'étaient corrompus par vénalité. Il va aussi chasser tout le monde, justement, pour rendre le temple à Dieu. Pourquoi il va dire « Vous avez fait de mon temple, qui est une maison de prière, une caverne de voleurs. » Observons donc, disent les pères, que ce passage est différent de celui raconté par saint Matthieu, chapitre 21, qui arriva très peu de temps à la passion du Christ. Ce premier passage prit place au début de son ministère. Il est donc évident que le Christ chassa deux fois les vendeurs du temple. Saint Jean raconte le premier cas, les autres évangélistes le deuxième. Donc saint Jean va compléter ce qui manque dans les écrits des trois premiers synoptiques. Donc, saint Bède le Vénérable explique que nous voyons ici clairement les deux natures en Jésus-Christ, la nature humaine parce qu'il est accompagné de sa mère, et la nature divine parce qu'il se déclare le vrai Fils de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, est vraiment Dieu et vraiment homme. Au sens allégorique maintenant, Dieu entre tous les jours dans sa maison pour y considérer la manière dont chacun s'y conduit. N'oublions pas que cette maison dont il est parlé, ce n'est pas simplement une maison matérielle, c'est également la maison de notre crèche. Notre crèche va être passée au crible par notre Seigneur Jésus-Christ au dimanche de Pâques, justement au samedi saint au soir. Ce sont des choses qui sont importantes à comprendre parce que notre âme devient comme une petite crèche. Je vais expliquer, j'en parlais déjà dimanche prochain. J'avais prévu ces explications pour le dernier dimanche, mais encore une fois, à cause de mon accident, je n'ai pas pu donner ces explications. Donc, notre âme, qui est le temple du Saint-Esprit, peut devenir soit une maison de prière, soit une maison de trafic. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Maison de mon Père, c'est une maison de prière. Et malheureusement, eh bien, si je laisse rentrer la révolution dans ma maison, dans mon âme, de maison de prière, mon âme va devenir maison de trafic. Donc tout dépend de la façon dont j'utilise notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que notre Seigneur Jésus-Christ est un enfant qui, au début de l'histoire de l'Église, qui va diviser entre ceux qui suivent notre Seigneur Jésus-Marie et ceux qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ. Pardon, ceux qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ et notre Seigneur Jésus-Marie d'une part, et ceux qui suivent le monde d'autre part. Une fois, je vous demande de bien vouloir me pardonner si j'ai parfois du mal à mettre toutes mes idées ensemble, mais j'ai été endormi complètement pour mon opération sur le genou et je sens que je ne suis pas encore complètement revenu à mon état normal. Alors, si je dis quelques petites bêtises, je veux bien vouloir me pardonner. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ma maison, mon âme est une crèche et cette crèche peut devenir soit maison de prière, soit caverne de voleurs. Tout va dépendre de qui je fais entrer dans la crèche. Donc si je fais entrer notre Seigneur Jésus-Christ dans la crèche, ma crèche va devenir une maison de prière. Si je fais rentrer le démon et le monde dans ma crèche, à ce moment-là, ma crèche va devenir une caverne de voleurs. Vous voyez, soit une maison de prière pour notre Seigneur Jésus-Christ, soit une caverne de voleurs. Si je mets notre Seigneur Jésus-Christ dehors et que je fais rentrer à la place de notre Seigneur Jésus-Christ, je fais rentrer le démon lui-même. Hein? Donc, nous voyons aussi clairement les deux natures, c'est très beau, Sainte-Bède le Vénérable, les deux natures en Jésus-Christ. La nature humaine, parce qu'il est accompagné de sa mère, et la nature divine, parce qu'il se déclare le vrai Fils de Dieu. Mais pourquoi il va avoir cette action très violente de chasser tout le monde du temple, de les brebis, les bœufs, jeter par terre l'argent des changeurs et renverser leur table? Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas supporter que notre maison devienne d'une maison de prière une caverne de voleurs. Donc on voit très bien dans cette action qu'il est à la fois homme, donc il est accompagné de sa mère, et à la fois Dieu, parce qu'il se déclare véritablement le vrai Fils de Dieu. On va voir ça plus tard. Au sens allégorique, Dieu entre tous les jours dans sa maison pour y considérer la manière dont chacun s'y conduit. Encore une fois, on reprend une idée que j'ai déjà explicitée, savoir que notre âme devient le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu entre tous les jours dans sa maison pour y considérer la manière dont chacun s'y conduit. En fonction de mon comportement dans ce temple du Saint-Esprit, n'oublions pas que notre âme est le temple du Saint-Esprit depuis le baptême, et bien en fonction de cela, selon notre manière de nous conduire, eh bien, nous allons aller soit vers le ciel, soit vers l'enfer. Oui. Oui. C'est une très belle phrase des Pères. Dieu entre tous les jours dans notre maison, notre âme, pour y considérer la manière dont chacun s'y conduit. Qu'est-ce que j'ai fait de mon âme? Mon âme ne m'appartient pas, elle appartient au bon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait de mon intelligence? Mon intelligence ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait de ma volonté? Ma volonté ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu. Donc notre Seigneur Jésus-Christ envoie ses anges pour savoir, c'est comme ça qu'il l'a voulu, les anges, notre ange gardien entre autres, vont devoir rendre compte à Dieu de notre comportement. Est-ce que je me comporte comme si j'étais une maison de prière ou est-ce que je me comporte comme si j'étais devenu une caverne de voleurs? Donc, il faut faire rentrer notre Seigneur Jésus-Christ bien régulièrement dans notre maison, surtout la prière du matin, la prière du soir, pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse nous expliquer ce qu'il voit dans notre âme qui n'a rien à y faire. Et si on écoute bien, notre Sainte Vierge Marie, qui sera là aussi, va nous le faire savoir. Attention, il y a une telle chose dans votre âme, à tel emplacement. Ça ne va pas plaire à mon fils du tout. Hein. Il va vous faire une remarque. Il vaut mieux que ce soit moi qui vous la fasse. Donc attention de bien changer ici quelque chose qu'il faut vous dépêcher de changer pour que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ arrive dans votre âme et puisse vraiment être reçu avec et toute la dignité et tout le respect nécessaire. Donc gardons-nous donc de nous laisser aller dans l'Église de Dieu à des futilités, à des rixes, à des haines, à des désirs passionnés, si nous ne voulons pas qu'il vienne à l'improviste nous chasser à coups de fouet hors de sa maison. Parce que si notre Seigneur Jésus-Christ a fait ceci avec le temple de Jérusalem, comprenons qu'il peut aussi très bien le faire avec notre temple, notre âme est comme un petit temple de Jérusalem. Donc si notre Seigneur Jésus-Christ a chassé les vendeurs du temple, qu'il a brisé les tables, qu'il a brisé, il a éparpillé l'argent des changeurs, et bien c'est pas pour rien, vous voyez, c'est bien pour nous expliquer que nous aussi on peut faire exactement la même erreur de maison de prière, devenir caverne de voleurs. Donc gardons-nous donc de nous laisser râler dans l'église de Dieu à des futilités, à des rixes, à des rires, à des haines, à des désirs passionnés, si nous ne voulons pas qu'il vienne à l'improviste nous chasser coup de fouet hors de sa maison. Dieu va venir comme un voleur. Et comme l'arbre tombe en général du côté où il penche, notre Seigneur Jésus-Christ sait très bien que s'il vient nous chercher, alors que l'arbre va toujours pencher à gauche, eh bien l'arbre va tomber à gauche une fois qu'on meurt. C'est la même chose pour si l'arbre tombait au contraire du bon côté, eh bien le bon Dieu peut intervenir. Pour nous aider à aller au ciel. En général, notre âme suit la direction générale de notre arbre. Si l'arbre a toujours été penché du bon côté, c'est en général de ce côté-là qu'on meurt. Si quelqu'un vit habituellement en état de grâce, en général, il meurt en état de grâce. Mais si quelqu'un vit habituellement en état de péché mortel, en général, il va mourir en état de péché mortel. C'est ça qu'il faut voir. Si un texte d'Origène, il peut arriver en effet que même un habitant de Jérusalem tombe dans cette faute et que les plus intelligents comme les plus instruits s'écartent du droit chemin et s'ils ne reviennent au plus tôt de leurs erreurs, ils perdent la force et la pénétration de leur esprit. N'oubliez pas que le temple de Jérusalem dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ va faire cet esclandre très fort, donc de prendre la fouette de corps pour changer tout le monde, les brebis, les animaux sans raison et les animaux raisonnables que sont les hommes. Il faut bien, encore une fois, méditer là-dessus. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a été prévenu, il nous a prévenu, il viendra comme un voleur. Rappelez-vous la parabole des 10 vierges sages et des vierges folles. Donc tout le monde attend l'époux, et puis tout le monde commence à s'assoupir, et puis un cri retentit dans la nuit, voilà l'époux qui arrive. Alors celle qui avait pris une provision suffisante d'huile, eh bien, vont pouvoir rentrer avec l'époux. Mais celles qui n'ont pas assez d'huile pour tenir toute la nuit, eh bien, vont devoir aller en chercher au marchand. Et donc, quand elles vont revenir, ces âmes vont s'apercevoir que la maison est close, c'est trop tard. Donc ici, un texte d'Origène. Il peut arriver en effet que même un habitant de Jérusalem tombe dans cette faute, que les plus intelligents comme les plus instruits s'écartent droit chemin. Et s'ils ne reviennent plus tôt de leurs erreurs, ils perdent la force et la pénétration de leur esprit. Pourquoi il faut ne pas rester dans le péché? Si j'ai le malheur d'avoir commis une offense grave à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut vraiment me prendre... j'ai perdu mon fil de mon idée. Encore une fois, je m'excuse, je n'ai pas les idées parfaitement claires. J'ai du mal à rassembler mes idées, mais je vais quand même donner le cours pour ne pas être trop en retard. Alors, avançons après ce texte d'Origène, à la page 27, au milieu de la page. Donc, Jésus trouve donc quelquefois dans le temple, c'est-à-dire dans les fonctions, au milieu des fonctions saintes, dans l'exercice de la prédication de la parole divine, des hommes qui font de la maison de son père une maison de commerce. Bon. Notons que notre Seigneur Jésus-Christ va rentrer dans cette colère, il y a une sainte colère chez notre Seigneur Jésus-Christ, alors que dans le temple de Jérusalem n'étaient vendues que des choses utiles pour les sacrifices. Imaginez un peu ce qui se serait passé s'il y avait eu en vente dans le temple de Jérusalem des choses qui n'ont rien à voir avec le sacrifice dans le temple. Ici, toutes les, tout ce qui était là, c'est-à-dire les colombes, les bœufs, les animaux qui étaient vendus pour être offerts en sacrifice, étaient des choses qui seront véritablement utilisées dans le cadre des sacrifices de propitiation qui étaient offerts par l'Ancien Testament. Mais imaginez que notre Seigneur Jésus-Christ ait trouvé des choses qui ne sont même pas utiles au sacrifice. À ce moment-là, il aurait été encore plus en colère. Donc, voyons un petit peu ce que disent les pères de l'Église sur ce sujet. Jésus trouve donc quelquefois dans le temple des hommes qui font de la maison de son père une maison de commerce. Ils mettent en vente les bœufs qu'ils auraient dû réserver pour la charrue et empêcher de retourner en arrière pour les rendre propres au royaume de Dieu. Donc de même que le bœuf tire sa charrue et que le bouvier qui est à côté des bœufs va obliger le bœuf à garder la ligne rectiligne vers le but, le bout du champ, mais de la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ exige que notre âme soit toujours en train de chercher le vrai, chercher l'endroit où se trouve notre Seigneur Jésus-Christ. Il en est aussi, disent les pères, qui préfèrent les richesses d'iniquité aux brebis qui auraient pu suffire à leur entretien, à leur ornement. Aussi une autre interprétation, enfin troisième interprétation, il en est enfin qui dédaignent la simplicité et l'innocence, en leur préférant l'amertume du cœur et les emportements de la colère, et pour un vif motif d'intérêt, sacrifier la fidélité de ceux qui sont figurés par des colombes. Donc encore une fois, notre Seigneur Jésus-Christ exige que son temple soit digne de lui. Et un des premiers temples dans lesquels notre Seigneur Jésus-Christ veut venir, c'est le temple de mon âme. Lorsque le Sauveur trouve ses hommes dans la maison sainte, il fait un fouet avec des cordes et les chasse dehors avec leurs brebis, jette à terre leur argent, renverse les comptoirs dressés dans l'âme des avares et défend de vendre désormais des colombes dans la maison de Dieu. Autre texte des Pères, je vous lis ses commentaires, page 27. Ce fait renferme encore, si je ne me trompe, un enseignement mystérieux et caché. Jésus veut nous faire comprendre que le sacrifice que Dieu exigeait des prêtres ne devait plus être conforme au sacrifice extérieur de la loi, que la loi elle-même ne serait plus observée comme le voulaient les Juifs encore charnels. C'est-à-dire que la loi de l'Ancien Testament, qui était un moyen de sanctification extraordinaire pour les gens de l'Ancien Testament, va devenir Excusez-moi, j'ai encore perdu le fil de mes idées. Je commence une phrase et puis j'arrive pas à la boucler. Veuillez m'excuser, c'est un petit peu difficile pour moi de donner ce cours, mais j'essaie de faire le mieux que je puisse. Les sacrifices de l'Ancien Testament sont devenus des sacrifices mortifères pour le Nouveau Testament. Pourquoi ? Parce que les sacrifices de l'Ancien Testament annonçaient un Dieu à venir. Or, après l'Ancien Testament, on est passé dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, ce Dieu est déjà venu. Dieu étant déjà venu, eh bien, il est évident qu'il nous faut changer complètement de comportement. Donc on ne peut plus honorer un Dieu qui est déjà venu avec des prières qui sous-entendent des sacrifices, qui sous-entendent qu'on attend Dieu. C'est le cas des Juifs actuels. Les Juifs actuels attendent toujours leur Messie alors qu'il est déjà passé, il est déjà venu. Donc si je suis et j'accepte les prières de l'Ancien Testament du peuple juif, ou même les prières actuelles du peuple juif, je sous-entends que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore arrivé. Donc, sous-entendant que notre Seigneur Jésus-Christ ne soit pas encore arrivé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je dis que le Dieu qui est venu s'incarner il y a 2000 ans, n'était pas vraiment Dieu, puisque je reste dans l'Ancien Testament. L'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ par le mystère de l'Incarnation, c'est la fin de l'Ancien Testament, le début du Nouveau Testament. C'est pour cela qu'au moment de la Passion, notre Seigneur Jésus-Christ va séparer en deux le voile du temps pour bien montrer que le temps de l'Ancien Testament est devenu caduc. Alors, en chassant, dernier paragraphe de la page 27, en chassant les bœufs et les brebis, en commandant d'emporter les colombes qui étaient les victimes ordinaires des Juifs, en renversant les tables couvertes de cette monnaie matérielle qui était la figure indirecte de la loi divine, c'est-à-dire de ce qui était honnête et licite, à ne consulter que la lettre de l'Écriture, enfin, en prenant un fouet pour chasser le peuple du temple, notre Seigneur nous apprenait que tout ce qui faisait partie de l'ancienne loi devait être détruit et dispersé. C'est pour cela qu'il prend un fouet pour chasser les marchands du temple, parce qu'ils représentaient l'Ancien Testament. Ainsi, il veut bien montrer que l'Ancien Testament est en train de disparaître pour laisser place au Nouveau Testament. Donc, notre Seigneur nous apprend ainsi que tout ce qui faisait partie de l'ancienne loi doit être détruit et dispersé, que le royaume ou le sacerdoce des Juifs devait être transféré à ceux qui, parmi les nations, ont embrassé la foi. Donc, l'Ancien Testament est devenu caduc, mortifère pour les gens du Nouveau Testament. Et donc, quand les pères disent qu'il nous faut détruire et disperser tout ce qui venait de l'ancien temps, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. À partir du moment où je suis baptisé, j'ai trouvé la grâce sanctifiante par une bonne confession, par un baptême, par une bonne communion. Et donc, je dois faire extrêmement attention à ne pas revenir en arrière. Rappelez-vous les trois rois mages qui vont chercher notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont été avertis de ne pas retourner par Hérode, de prendre un autre chemin pour bien montrer que lorsqu'on a découvert notre Seigneur Jésus-Christ par une bonne confession, un sacrement, une bonne communion, une bonne méditation, que sais-je, eh bien, il nous faut vivre d'une façon complètement différente. On n'a pas le droit de revenir, de sortir de la messe avec le même degré de charité qu'on avait en y rentrant. Hein. Vous avez tous, moi le premier, le désir, vous devez tous avoir dans votre cœur le désir d'augmenter par la présence à la Sainte Messe le degré de charité qui était dans votre cœur. Si je sors de la messe avec le même degré de charité que j'avais dans mon cœur au début de la messe, la messe m'a rien servi à rien du tout. Vous voyez ? Donc il faut éliminer de mon âme tout ce qui n'a rien à y faire, tout ce qui vient de l'Ancien Testament, qui doit être donc détruit et dispersé. Donc c'est la substitution de l'Ancien Testament par le Nouveau Testament. Avançons avec la page 28. Alors, ceux-là donc qui vendent les colombes, qui ne donnent pas gratuitement comme Dieu leur donne la grâce de l'Esprit Saint, et qui la vendent à prix d'argent, ou bien, si ce n'est point à prix d'argent, c'est par un vain désir de popularité qu'ils accordent l'imposition des mains, qui appellent le Saint-Esprit dans les âmes, et ils confèrent les saints ordres, non d'après le mérite de la vie, mais en sacrifiant à la faveur ou à la complaisance. Ici, les pères de l'Église font allusion à la simonie. C'est la vente des sacrements, c'est quelque chose d'épouvantable. Il a toujours été sanctionné, même dans l'Église moderne d'ailleurs, toujours sanctionné par une peine d'excommunication. Attention donc à ce péché épouvantable de vendre des sacrements. C'est quelque chose d'extrêmement fréquent dans l'Église de Vatican II. C'est très très fréquent. J'ai eu un cas, il n'y a pas très longtemps, quelques années justement, de jeunes qui voulait se marier, et voulait absolument avoir une église pour pouvoir se marier, parce que la famille, l'épouse venait d'un milieu protestant. Eh bien, ils sont allés voir le curé local pour demander de pouvoir emprunter son église pour que je puisse y célébrer le mariage. Le curé a refusé catégoriquement que je puisse célébrer le mariage dans cet endroit-là. Et lorsque la préparation au mariage s'est faite, je préparais le mariage de mon côté, mais ces jeunes sont allés voir le curé. La première chose que leur a dit le curé pour les préparer au mariage, c'était de leur demander 120 euros. Donc on demande positivement de l'argent pour faire un mariage. C'est ce qu'on appelle la simonie. Et j'ai rencontré beaucoup de graves imprudences. Je considère ça comme extrêmement grave. Graves imprudences. Imprudences même dans avec les prêtres de la tradition. Je me rappelle le scandale, j'étais profondément scandalisé de voir à l'époque, je ne sais pas si ça existait toujours, mais c'était il y a très très longtemps, moins 10 ou 20 ans, j'étais une fois en visite à Paris, je suis rentré dans la sacristie de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, à Paris qui appartenait à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, et à l'entrée de la sacristie, donc dans un endroit où tous les fidèles pouvaient entrer pour voir le curé, donc c'était pratiquement en vue et au-dessus de tout le monde, il y avait un papier qui indiquait les tarifs des sacrements. Donc je ne sais plus combien c'était, mais un baptême c'est 50 euros, un convoi funèbre c'est tant d'euros, un mariage c'est tant d'euros. J'étais scandalisé par ça, parce que ça c'est vraiment de la simonie. Lorsque quelqu'un vient me demander, monsieur l'abbé, je voudrais faire baptiser mon bébé, combien vous chargez pour un baptême? Quand un prêtre est acculé à une question de ce genre, il doit faire très attention à répondre, rien du tout. Tous les sacrements sont valides, sont gratuits dans l'Église catholique. Vous ne me devez rien pour un baptême. Lorsque les gens viennent se préparer au mariage, ils viennent me demander, monsieur l'abbé, combien est-ce qu'on vous doit pour le mariage? Il faut répondre, rien du tout. Sinon, on tombe dans la simonie. Si je répondais, pour le mariage, je me devais 120 euros, eh bien, c'est la simonie. Il y a une peine excommunication pour ça. Si pour un baptême, les parents me disent, voilà, on voudrait faire baptiser un bébé, combien vous chargez? Je réponds 50 euros, c'est de la simonie. Il faut répondre à chaque fois, non, tout est gratuit. Bon, maintenant, si les gens veulent faire une petite offrande, très bien, ils sont libres. Bon, en général, c'est ce qu'ils font, mais ils ne sont pas tenus, ce n'est pas obligatoire. Donc, attention à ça. Alors, vous allez me dire, mais vous demandez bien de l'argent pour ce qu'on appelle les honoraires de messe. C'est complètement différent, ce n'est pas du tout la simonie. Les honoraires de messe, c'est reconnu par l'Église que lorsque les fidèles demandent à un prêtre, demandent une intention de messe à un prêtre, c'est le seul, en quelque sorte le salaire du prêtre, c'est le seul argent qu'il a souvent le droit de garder dans bien des cas, ça dépend des constitutions, ça dépend des groupements dans lesquels il vit, mais les honoraires de messe, c'est tout à fait différent. Bon, vous demandez donner des messes à un prêtre, et on fait une offrande qui est libre d'ailleurs. Bon, pour qu'il n'y ait pas d'abus, il y a en général un barème, un tarif qui est donné à Fraternité Saint-Pédis. Je crois qu'actuellement, c'est 18 euros par messe. Bon, et donc, les prêtres ont le droit de demander un honoraire de messe pour ces messes qu'ils célèbrent aux intentions demandées par les fidèles. Mais il faut qu'ils fassent aussi très attention à la façon de le faire. Ils ont le droit de le faire dans le sens que c'est le seul moyen de vivre des prêtres, dans bien des cas, ils vivent qu'avec les honoraires de messe. S'ils n'ont pas d'honoraires de messe, ils ne peuvent plus vivre. Souvent, quand ils sont seuls, eh bien, c'est grâce à ça qu'ils peuvent vivre. Mais ces honoraires de messe ne sont pas un paiement pour la messe. C'est complètement différent. Et moi-même, je fais très attention à ce que les gens me donnent une messe, de ne jamais exiger. Monsieur l'abbé, est-ce que vous pourriez me dire une messe pour telle intention? Je fais très attention de ne jamais exiger de l'argent. Bon. Si les gens me demandent quels sont les honoraires de messe en France, je dirais, monsieur, madame, en principe c'est 18 euros. Et je rajoute toujours, si vous pouvez les donner, vous les donnez, parce que c'est avec ça que le prêtre peut vivre. Cependant, si cette somme est trop importante pour vous, vous donnez moins. Et quand c'est pour une seule messe, je fais toujours très attention à ne jamais exiger de l'argent si les gens ont envie de me donner un horaire, ce qui arrive. Est-ce que vous pouvez dire la messe pour telle personne, tel membre de ma famille qui vient de mourir? Bien madame, bien monsieur, je note la messe sur mon carnet de messe, je vais célébrer la messe pour cette intention, et que les gens me disent merci beaucoup monsieur l'abbé, que bon Dieu vous bénisse, bonne journée, qu'ils partent, je fais très attention de ne rien demander. ne s'agit pas pour le prêtre de dire à ce moment-là, excusez-moi, vous avez oublié de me payer pour la messe. Parce que là, ça, c'est pas de la simonie dans ce cas-là, à cause de l'autorisation que l'Église donne pour les honoraires de messe, mais ça donne un peu la pression qu'on vend un sacrement. Bon. Je pense que les prêtres, le conseil que je donnerais à un jeune prêtre, ne demandez jamais, n'exigez jamais un honoraire de messe de quelqu'un qui a oublié de vous le donner pour une messe. Bon. Il peut y avoir des cas où un arrangement a été fait avant. Par exemple, je suis assuré à la messe dans une région très lointaine. Je suis obligé de prendre l'avion, par exemple, pour aller là. Les gens me demandent d'aller les voir dans une région très lointaine pour un baptême, pour un sacrement de mariage ou autre chose. Bon, on s'est mis d'accord. Écoutez, moi, je veux bien aller, vous demander d'aller à l'île de la Réunion pour faire ce mariage, pour faire ce baptême. Je le fais volontiers pour vous rendre service. Pendant, je m'excuse, moi, je ne peux pas payer le billet, il va falloir que vous me payiez le billet. Mais ce n'est pas du tout de la simonie. Vous voyez, les choses doivent être parfaitement claires. La seule fois où j'ai demandé un honoraire, c'est une fois une personne m'avait demandé un trentin. Trentin, c'est 30 messes dites à la suite et qui doivent être en continu. C'est-à-dire que le prêtre ne peut pas, s'il fait une interruption, même involontaire, au milieu du trentin, il faut tout recommencer. Donc, c'est 30 messes à la suite. Hein. Donc, c'est donc une obligation grave pour le prêtre. Et une fois, une personne m'a demandé, je termine, demandé un trentin et il ne m'a pas réglé le trentin. Alors là, ça faisait trop, moi. Financièrement, je pouvais pas tenir le coup parce que je veux bien offrir une messe gratuitement pour des gens qui n'ont pas d'argent. Bon, je le fais, ça m'arrive régulièrement de le faire. Et 30 messes, ça veut dire que pendant 30 jours, j'ai plus du tout de revenus et je peux avoir des obligations en matière de dépenses qui font que j'ai besoin de cet honoraire de messe. Donc, si c'est pour 30 messes, là, j'avais fait une remarque, je me rappelle, si personne ne me donnait rien, j'ai téléphoné à cette personne, j'ai pris trois paires de gants, j'ai dit à cette personne, excusez-moi, mais je veux dire, j'ai inscrit ce trentaine de messes sur mon carnet de messes, cependant, est-ce que vous pourriez me régler, s'il vous plaît, ce trentaine, parce que je n'ai pas les moyens de vous offrir 30 messes. Et quand il n'y en a qu'une ou deux, je dis rien. Alors, si je vends les faveurs de l'évêché, de mon épiscopat, ou les faveurs de mon ordre, du fait que je sois prêtre par argent, même par faveur ou par complaisance, c'est des péchés épouvantables. Alors, c'est saint Augustin qui fait remarquer que les bœufs, donc on est à la page 26, donc notre Seigneur va, page 20, page 28, notre Seigneur Jésus-Christ va renverser les tables, les colombes et tous les animaux qui étaient vendus pour les sacrifices. Donc il y avait vraisemblablement même des bœufs, des brebis, des boucs, je ne sais pas. Eh bien, ces bœufs, dit saint Augustin, représentent les apôtres et les prophètes, par le moyen duquel Dieu nous a transmis les saintes Écritures. Donc, ceux donc qui se servent des Écritures pour tromper la multitude afin de recevoir des honneurs vendent les bœufs, les brebis, c'est-à-dire les peuples mêmes, et à qui les vendent-ils? Ils les vendent aux démons. Car tout ce qui est détaché de l'Église, qui est une, est emporté par le démon, qui est comme un lion rugissant, tournant autour de nous, cherchant quelqu'un à dévorer. Ce qu'on dit tous les soirs, l'office de Compli. Vous voyez? Donc le bœuf, si vous voulez, dans ce cas-là, devient un symbole du gros travail. Le bœuf est un animal puissant qui tire une charrue très lourde pendant de longues heures. Donc ça représente des apôtres qui sont au service de la foi. Alors les brebis, par contre, sont les œuvres d'innocence et de piété. Donc vendre les brebis, c'est donc pratiquer la piété en vue des louanges des hommes. Je pratique la piété, mais j'ai l'intention d'être admiré pour ce que je fais. Les changeurs d'argent dans le temple sont ceux qui se livrent publiquement dans l'église aux intérêts de la terre. On fait encore de la maison du Seigneur une maison de commerce, non seulement quand on confère les saints ordres pour recevoir en échange de l'argent, des louanges, des honneurs, mais quand on en exerce le ministère tout spirituel qu'on tient de Dieu avec une intention qui n'est pas droite en vue d'une récompense toute humaine. Donc si je célèbre la messe avec l'intention de me faire admirer par la façon dont je dis la messe, c'est l'esprit de la simonie. L'esprit simonial, déjà. Okay. Maintenant, si je célèbre la messe simplement par désir de lucre, désir d'un gain financier, encore une fois, c'est l'esprit simoniaque, même si ce n'est pas forcément la simonie au sens pur. C'est l'esprit simoniaque, parce qu'on lie beaucoup trop la célébration de la Sainte Messe à une somme d'argent. Voilà, donc je vais arrêter là. Puisque ça fait déjà une heure que je vous parle, donc encore une fois, je m'excuse si mon cours était un peu haché aujourd'hui, mais encore une fois, j'ai eu une anesthésie générale il y a quelques heures et je ne suis pas tout à fait revenu à totale possession de mes voies moyens. Donc soyez indulgents avec moi pour ce cours. Merci. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.